Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Monnaie Libre. Aujourd'hui, je reçois Daniel. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer là pour cette émission. Là. Ça va être sympa.
Oui, on espère bien. Il n'y a pas de raison. On est à Montreuil à l'événement annuel.
Les sixièmes rencontres.
Sixième rencontre ouais. des monnaies locales complémentaires. Alors, et Daniel, toi, tu as un parcours extraordinaire puisque tu es dans les systèmes d'échange locaux avant même qu'on se rende compte qu'il y avait des problèmes de monnaie, puisque dès 1994.
94, oui, j'avais vu sur un petit journal local un gars qui s'appelait Poulain qui avait créé une monnaie locale. Alors c'était assez amusant à l'époque, il y avait des petits billets et c'était la monnaie locale, c'était la bebe. Et donc un journal local qui avait fait tout un article sur ce gars-là qui lançait alors les selles n'existaient pas encore, puisque c'est à la suite de ce petit article sur le journal qu'on a commencé à se renseigner un petit peu. Et on a trouvé une rencontre dans le sud-est de la France. Je pense que c'était dans Pierre Rabhi, je crois, qui organisait ça, une rencontre pour avec des gars qui étaient venus des Let's Anglais. Les Let's Anglais, bon, c'était déjà en Angleterre, ça se développait, les systèmes d'échange local, anglais, qui s'appelaient les Let's.
Oui, LETS, ce qui veut dire en anglais à l'envers, c'est Local Exchange Trade.
Voilà,
Trading System.
Et alors, on a eu une grosse documentation tout en anglais, on a commencé à traduire ça un petit peu. Et puis, peu de temps après, on a eu quelques réunions dans le Périgord Noir, là où j'habite. Et puis, à une dizaine, on a pris un cahier, et puis on a dit on va essayer de gérer un système d'échange local. Et puis il y a eu, au mois de septembre, il y a eu une rencontre.
Est-ce que ça s'est fait parce qu'il y avait la nécessité de le faire ou c'était une expérimentation?
C'était un grand moment de changement. C'était un moment on sentait qu'il y avait une certaine crise qui commençait à naître déjà à l'époque.
Devenir pesante, oui.
Voilà, ça commençait à être pesant. Moi, j'étais en pleine période de mutation. J'avais plus d'emploi. Je m'intéressais beaucoup aux alternatives. Et alors, j'avais créé une association qui s'appelait Archisam 24. C'était une association pour essayer de faire de l'entraide entre les différentes personnes du local. Et puis, on voit d'un seul coup qu'on a possibilité de créer un sel. Alors, on se rend à Mirepoix. Mirepoix, c'était en Ariège. Et là, on était 3 ou 4 là, de Dordogne, et on se rencontre avec François Théris, qui était un innovateur qui a créé le premier sel, le sel pyrénéen.
D'accord.
Alors, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ça se passait dans la gare de Mirepoix, c'était sur 2 jours. Alors avec plein de gens, moi à l'époque je connaissais très peu de gens dans ce milieu-là. Il y avait des économistes, il y avait Daniel Farjas que j'ai rencontré pour la première fois. Ça a été un initiateur en 98 du jeu. Et tous ces gens-là...
Qui est une autre monnaie locale, un peu transnationale aussi.
On va en parler après, le jeu, ouais, c'est quelque chose d'important, puisqu'il y a eu un tournant en 98 avec le jeu. Mais jusque-là, on se lance dans l'aventure du sel. Et puis, on fait une première rencontre nationale, donc l'année d'après, à Thiviers. Alors, c'est un peu mémorable, parce que à Thiviers, il y avait des gens de tous les coins de France, donc c'était un peu... tout le monde voulait créer. Bon, on se retrouvait un peu comme aujourd'hui où tout le monde veut créer une monnaie locale. Et là, tout le monde voulait créer un sel. Tout le monde avait entendu parler. Et encore à l'époque, on n'avait pas vraiment Internet. Ça commençait tout juste. Des balbutiements d'Internet.
Oui.
95, 98, c'était vraiment le début. Et puis, nous, on crée le premier sel, tranquille, le sel 24. Et le sel 24, bon, on est arrivé à 300 familles dedans, qui était vraiment un truc qui tournait bien.
Alors, sur quel principe ? Comment la monnaie se crée ?
Alors, là, c'était le système d'échange local, c'est-à-dire une heure égale une heure, c'était la base des premiers sels.
Ouais.
On s'était inspiré donc du sel pyrénéen. On faisait une gestion centralisée, donc très compliquée, réunion une fois par semaine pour faire les comptes, tout
ouais,
ça.
Ouais.
Avec, on avait des chéquiers, c'était à chaque fois qu'on échangeait, on faisait un chèque du montant de l'échange,
ouais.
Toujours sur la base du temps.
Du temps.
Une heure égale 60 unités de sel. Et nous, comme on était en Périgord noir, on a choisi l'unité, la truffe. Donc une truffe égale une minute.
Une minute.
Voilà, et on s'est basé bon, sur... ça commençait un petit peu partout à
commencer. Alors qu'est-ce qui se passe là s'il y a un des membres du sel qui se retrouve avec, je ne sais pas moi, 15 000 minutes
Alors, oui, alors ça a été dur à gérer. On a commencé à prendre exemple sur le sel pyrénéen. On a dit, on va mettre un maximum, on ne savait pas trop, on
ouais.
tâtonnait.
Ouais.
On a dit 3 000, 4 000, 5 000 le maximum, et puis 3 000, 4 000 en dessous. Et puis, est-ce qu'on donne des unités à ceux qui rentrent ? Bon, moi, personnellement, j'étais pour faire un peu de propagande, pour montrer que... pas de faire carrément un puits sans fond, parce qu'il y a des selles qui faisaient des puits sans fond aussi,
oui.
des puits sans fond, donc on donnait beaucoup d'unités aux gens. Surtout, on donnait des unités de sel, par exemple, aux bénévoles. Le bénévole qui venait,
oui.
qui s'occupait d'une tâche dans le cadre du sel, on le rémunérait en unités. Mais ça, c'était pris sur un puits sans fond. Alors là, bon, très vite, il y a des selles qui ont dit « Non, non, pas de puits sans fond, tout ça. » Alors bon, on a commencé à prendre des cotisations sur les membres en unité locale et qu'on répartissait sur les...
Ah, c'est-à-dire, une sorte de taxe interne.
Voilà, interne, mmh. c'est-à-dire, on disait, chaque trimestre, on prend, mettons, 30 unités. Et ça, on les prélevait sur le compte
oui.
automatiquement. Et vu qu'il y avait une comptabilité centralisée, on pouvait le faire. Et puis très vite, bon, on avait donné 200 unités à chaque membre au début et ils se retrouvaient avec zéro très vite.
Oui, bien sûr.
Ceux qui n'avaient pas fait d'échange, ils étaient avec zéro. Donc il fallait qu'ils se mettent au travail, entre guillemets.
Oui, oui.
Et bon, il y avait beaucoup d'échanges, les livres, les CD, les DVD, tout ça, ça s'échangeait beaucoup lors des bourses locales d'échange. On en faisait une par mois. Et puis jusqu'au jour où il y a un gars qui était un des créateurs, qui avait un terrain de camping, il a décidé de faire tous les mercredis une bourse d'échange.
Ouais.
Donc on a eu enfin un marché local. Et ça a été vraiment une révolution parce que tous les gens venaient, ceux qui avaient des produits locaux, des légumes, tout ce qui pouvait être
C'est-à-dire que le marché était plus fréquent, c'est-à-dire que c'était une fois par mois, c'est passé une fois par semaine.
Une fois par
semaine. C'est ça qui était révolutionnaire.
Et sur le même lieu.
Sur le même lieu.
On prend l'habitude, et c'était un terrain de camping.
Ouais.
Il n'y avait qu'en juillet et août, puisque le gars faisait camping, donc le juillet et août, on ne le faisait pas.
Mm-hmm.
On le faisait une fois par mois quand il y avait des creux. Mais là, ça commençait vraiment à prendre conscience que le sel pouvait aider les gens et on est arrivé à 350. Et quand on est arrivé à 350 familles, il y a eu le problème, c'était un problème dans l'esprit des gens. Oui, il y en a qui étaient pour la comptabilité centralisée, d'autres qui disaient « Ouais, ça serait bien qu'on ait un carnet un peu... » Alors c'était prématuré encore pour le jeu, puisqu'on n'avait pas lancé le jeu. Et puis en 97-98, je retrouve Daniel Farjas, que j'allais voir régulièrement à Vingros, et puis je m'étais mis donc dans le sel de Vingros, à côté de Perpignan.
Ouais.
Et puis j'allais le voir, et puis je voyais que son sel aussi, le sel de Perpignan, marchait de plus en plus mal. Et à cause de, si vous connaissez un petit peu Perpignan, c'est que des vallées parallèles,
ouais.
et c'était compliqué pour faire les échanges d'une vallée à l'autre,
d'accord.
beaucoup de distance, tout ça. Et lui dit, c'est simple, si le sel il marche pas, on va revitaliser les sels en créant le jeu. Alors comment Alors il y a un article...
Donc le jeu qui permet de faire des échanges intercels,
intercels, et puis amener plein de gens qui sont d'une vallée à l'autre, qui en avaient marre un petit peu du sel, parce qu'il fallait payer une cotisation, tout ça...
En euros, enfin,
oui,
en monnaie officielle.
Et là, on se retrouve dans les cotisations, c'est le problème des lois de 1901.
Ouais.
La loi de 1901, c'est super, mais chaque fois qu'il faut payer une cotisation, on perd 30% des membres. Ça, c'est parce que les gens oublient. Alors, le trésorier, il en a marre. Au bout de 3 mois, il ne fait pas de relance, d'ailleurs.
Ouais.
Donc, au bout d'un moment, il y a des gens qui disparaissent. Et il y a des nouveaux qui arrivent, donc ça, ça se maintient, mais on perd une énergie.
Et surtout, est-ce que tu es d'accord avec le fait que c'est paradoxal de dire on crée finalement un système d'échange à base d'une monnaie locale à nous,
oui,
une monnaie qu'on utilise, et de te faire payer dans une monnaie qui n'est pas à nous?
Alors ça, c'est paradoxal, oui. Et alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces euros?
Oui,
parce que
plus, oui.
Qu'est-ce qu'on fait de ces euros, sachant que bon, la plupart des gens n'ont pas trop d'euros quand même dans les alternatives, donc, puisque c'était beaucoup d'alternatives qui étaient dans le système. Alors là, il y a eu plein de choses qui sont passées. On a créé d'ailleurs un blog qui s'appelle Monnaie associative et locale, qui existe toujours. Hein. C'est Daniel Farjas qui l'avait créé avec moi. On avait travaillé là-dessus. Il y a une trentaine de textes qui sont toujours présents. Comme il est décédé en 2009, donc pour garder la mémoire de la personne, on a gardé moi j'ai repris le blog et on continue à mettre des textes de temps en temps, mais pas trop, tu vois, c'est
d'accord.
Un peu pour garder la mémoire, ouais. Surtout de textes qu'il avait écrits, que c'est un peu souvenir. Hein, c'est... Alors en 98, donc on lance le jeu. Jardin d'échange universel.
Qui vient du Canada, non c'est
Oui,
ça
alors non, le Canada, ça ne vient pas du Canada. C'est-à-dire, au Québec, ils reconnaissent maintenant qu'ils se sont inspirés de Daniel Farjas, qui avait lancé, parce que Daniel Farjas faisait les fiches écologiques à l'époque,
ouais.
Et il avait des contacts avec beaucoup de Québécois qui lui achetaient ces fiches écologiques.
Uh-huh.
Les fiches écologiques, c'était des photocopies de textes sur les alternatives dans plein de sujets, et sujet médical, sujet l'écologie, tout ça, enfin, c'était très intéressant. Et il avait beaucoup de clientèle québécoise, à force il avait fait un annuaire des Québécois. Et quand il a créé le jeu, et ben ça fait un peu pauvre, comme de la poudre, là-bas ils ont dit eh ben, le jeu c'est formidable, voilà, parce qu'ils n'avaient pas testé encore le sel. Le sel, c'était,
ouais,
ça avait fonctionné aux États-Unis.
Alors le jeu, c'est quoi le principe alors?
Alors le principe du jeu, bon bah c'est comme le sel, c'est sauf que chacun agit en sa conscience, c'est-à-dire à son carnet, et crée son réseau autour de lui. C'est-à-dire c'est chacun devient
auto-comptable.
actionnaire de son compte. C'est-à-dire,
ouais.
si on parle d'un système capitaliste,
ouais.
Il devient. Chaque action qu'il va faire, ça va être pour son intérêt. C'est-à-dire, il va éventuellement refaire des carnets, les confectionner, et puis avoir des carnets pour donner aux gens qui vont être autour de lui, pour pouvoir faire des échanges.
Ouais.
Et progressivement, il crée son réseau autour de lui.
Alors, le principe, c'est qu'il. Un membre du jeu, donc gère un compte en moins et en plus.
Voilà,
il n'y a pas
carnet.
Vraiment de limite, c'est ça
c'est pareil, on reste dans le milieu raisonnable. C'est d'ailleurs parce que dès qu'on a 5000 ou 10 000, mettons 6000 unités de jeu, ça représente environ 60 heures.
Ouais.
Donc c'est une semaine et demie. On a une semaine et demie de débit. Donc c'est en temps, c'est toujours basé sur le temps. Il faut pouvoir le rattraper après. Donc il ne faut pas descendre trop bas. Daniel Farjas lui préconisait qu'on ne pouvait pas être en négatif. J'ai jamais été trop de son avis là-dessus.
Et si on n'est pas négatif, d'où vient l'argent?
Alors voilà. Non mais lui, c'était très simple. Alors, parce qu'il ouais. pensait à une chose. L'argent, si tu veux, les unités. Puisqu'il pensait revitaliser les selles, il pensait que les gens qui avaient par exemple 10 000 unités sur leur selle pouvaient faire un transfert d'unités, puisque ça leur appartenait, les unités, et les mettre sur le jeu. Sur le carnet du jeu. Et alors, il y a des selles, par exemple le sel Gabar à Pessac,
ah oui.
Il autorise ça. C'est, si tu as par exemple 6000 unités sur ton compte de sel, parce que tu as bien fait plein de trucs, tu as échangé beaucoup de livres, beaucoup de.
Mais par contre, comment contrôler le carnet de quelqu'un? En fait, il y a des signatures qui sont faites à chaque transaction.
Oui, on n'écrit jamais sur son carnet. C'est-à-dire sur son carnet.
Ouais, c'est pas nous qui écrivons sur le carnet.
Jamais.
Voilà.
On ne doit pas avoir un seul truc sur son carnet,
ouais.
Sauf quelqu'un qui aurait les bras coupés ou qui n'aurait pas de main. Donc à ce moment, ça se saurait.
Ouais.
Mais en principe, c'est toujours l'autre qui écrit sur le carnet.
Mmh.
Et on est garant que la personne qui a écrit l'échange, on le retrouve sur le carnet de l'autre. C'est-à-dire qu'on a possibilité qu'il y ait une écriture identique sur les deux carnets.
Double écriture.
Alors, double écriture. Et en principe, bon, à ma connaissance, il y a eu un ou deux trucs un peu bizarres, mais ça vaut même pas le coup d'en parler.
C'est-à-dire, ouais,
c'est vraiment
anecdotique.
Des erreurs, c'est-à-dire ouais, soit une erreur d'écriture ou un truc comme ça, mais c'est vraiment anecdotique.
D'accord.
Mais il n'y a jamais eu de faussaire du jeu, ça, j'en ai pas à ma connaissance. Ça, et moi, je sais que la meilleure preuve, c'est que j'ai tous mes carnets de jeu depuis 98. dû en avoir 4 ou 5 à la maison. Et c'est souvent que je les regarde parce que c'est important, parce qu'il y a plein de numéros de téléphone, de gens qu'on connaît, des fois qu'on rappelle. On dit, tiens, lui, il y a longtemps que je ne l'ai pas appelé, qu'est-ce qu'il devient ? Lui, il est en Bretagne, tiens, j'irai bien le voir. Et on s'aperçoit qu'ils ont toujours le carnet du jeu. Partout. Alors, ils ne l'ont pas toujours sous la main. Mais par exemple, je sors jamais de chez moi sans mon carnet du jeu. Il est dans.
Tu l'as là avec toi ?
Oui, bien sûr, il est dans la sacoche. Ouais. J'ai la pochette même qui a fait. Il y a une pochette pour mettre les carnets du jeu. Ils sont dedans. Je te les montrerai tout à l'heure. Là, ouais. Pas de problème. Et ça, c'est important. C'est-à-dire parce que à tout moment, j'ai aussi toujours un ou deux carnets vierges que je peux. Tiens, tu veux faire partie du jeu ? Tiens, voilà un carnet. Qu'est-ce que je te dois pour le carnet ? Alors, il y a un tarif, c'est 20 unités de jeu pour le carnet.
Ouais.
Si tu veux pas ça, bon, bah, à ce moment-là, tu peux te l'imprimer toi-même. Ouais. Tu as une possibilité d'en imprimer. Tu as aussi la possibilité d'acheter des couvertures. On a des couvertures toutes faites, cartonnées. On peut en commander par 5 ou par 10 à un gars qui en avait fait imprimer. Mais tout est. Et puis, à chaque fois qu'on fait une rencontre, il y a toujours quelqu'un qui vient avec 10 ou 20 carnets pour faire fonctionner le jeu. Alors, depuis, ça s'est modifié. Bon, le sel continue. Alors, le sel, bon, il a explosé un peu vers l'an 2000. Il s'est séparé, je parle du sel 24. Ouais. Il s'est séparé en trois groupes. Il y a eu un sel qui est parti sur Bergerac. Il y a eu un sel qui s'est appelé Sel à vie. Lui, bon... il végète complètement. Il y a eu le sel 24 terre, donc c'est encore celui dont je m'occupe. Le sel 24 terre, on est une trentaine à avoir tous un carnet du jeu et on n'a plus de comptabilité centralisée. Et puis, pour ma part, je reste donc fidèle au sel Gabard de Pessac, qui me sert quand je vais sur Bordeaux. Une fois tous les 2-3 mois, je vais à une bourse d'échange locale là-bas, bah, déjà pour rencontrer des amis, voir le lien social aussi pour l'organisation des rencontres annuelles, tu vois, parce que ça c'est important. Je dois en être à ma 14e rencontre annuelle, tu vois.
Ouais, d'accord.
Et ça c'est une semaine qui est réservée dans l'année pour ça. J'y vais, je crois que je connais 1000 personnes à peu près, des gens chaque année. On les voit pas tous les ans, tu vois, mais bon. Malheureusement, il y en a qui disparaissent aussi. Puis des fois, c'est malheureux, c'est des bons copains. C'est comme tout. Hein. Le sel, c'est la vie aussi. C'est la vie, la mort, tout. T'as plein de choses comme ça.
Et un lien social comme ça, dans la durée, dans le temps.
C'est très positif, le lien social. Là, tu vois, on est à Montreuil. Moi, je suis né pas loin, je suis né à Livry-Gardon, mais à Montreuil, j'ai travaillé sur Saint-Mandé, là, qui est pas loin, hein, à côté de Vincennes, pendant 10 ans. Et bien ici, je connaissais déjà un petit peu de monde, et puis là, je reviens, il y a plein de gens, même tout à l'heure, tu vois, il y avait Dominique Voynet, qui est maire de Montreuil, qui est venu me serrer la main, tout ça.
Elle est passée, j'ai pas vu.
Oui, elle était là.
D'accord.
Elle était là, et puis elle était encore là d'ailleurs, elle était dans les parages.
Ouais.
Et c'est vrai que moi je l'ai connue chez Les Verts, tu vois, à l'époque de. Elle était maire de Dole, je crois, à un moment, là, dans le Jura. On s'était rencontrés à une rencontre dans le Jura aussi. Et puis, c'est tous des gens, c'est des gens militants. Alors on entend que les Verts sont pas... mais si, les Verts, ils sont présents, tu vois, tout à l'heure on parlait de ça.
Oui, c'est vrai.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec Françoise.
Ah, parce qu'il disait qu'il n'y en avait pas, alors qu'il y en a.
C'est comme des gens de gauche qui sont dans les selles, il y en a plein. Et puis, il y a des gens, même du FN, qui sont dans les selles. Et puis, on a mis dans la charte qu'il fallait... entre guillemets apolitique. On n'est pas vraiment apolitique, je ne sais pas, politique.
Anarchiste.
On ne connaît pas. non, anarchiste. Il y a des anarchistes.
Ouais.
Mais alors, bon, dès que tu n'es pas d'accord avec des gens, il y en a qui te mettent. Tiens, lui, il est anarchiste.
Ouais.
Bon, on n'est pas pareil, c'est tout. Des fois, c'est vrai qu'on aurait tendance. Il y en a, j'en connais dans les scènes, certains qui sont vraiment anarchistes. Tu vois, moi, par exemple, on m'a fait un jour mon portrait, un photographe, ça se passait à Gap. Il m'a pris en photo, il m'a fait une photo magnifique. Et un jour, il m'a envoyé la photo. Elle est grande, elle a remporté un concours. Et tu sais qu'est-ce qu'il a mis derrière la photo ? j'étais étonné parce que c'était à une exposition de photos, c'était marqué Lanard. Putain, je l'ai toujours.
C'est
la
parce
photo.
Que c'était, c'est l'image qui s'en faisait.
L'image qui s'est faite, ouais. Lui, et qui, ouais. Quand ouais. Il a fait son exposition, il a gagné un premier prix parce que c'est une photo qui est magnifique et qui m'a servi d'ailleurs même à, ça c'est une anecdote, à tourner dans un film.
Ah ouais.
Parce que okay. On m'a demandé un film qu'on a tourné l'année dernière au mois de novembre. C'était un film qui dure 10 minutes, c'est un court métrage qui s'appelle La Traversée, qui va sortir là-haut. Il est sorti le film, mais il va sortir un petit peu en court métrage là dans le Périgord, tu vois. Ouais. On a un réseau de cinéma alternatif.
Ouais. Ouais.
Et La Traversée, bon, c'est parce que la personne a vu cette photo, Lanard, et il fallait avoir la barbe et tout ça. Alors ça moi, ça me fait rire, parce qu'on est catalogué.
Ouais.
On est catalogué, comme le gars qui avait créé la monnaie locale, la Beubeu, là, tout de suite, quand on en parle maintenant. Quand je lis l'article 15 ans après, c'est marrant, c'est,
ouais.
Ça fait rire plus qu'autre chose, avec une feuille de cannabis, tu vois.
Ouais. Et comment tu vois, toi, avec ton parcours, Est-ce que tu vois le sel ou le jeu ou les monnaies complémentaires comme une réaction de, je dirais, contre, pour sortir de la monnaie officielle qui ne fonctionne pas, ou est-ce que tu le vois comme étant une béquille, ou est-ce que tu le vois comme une action volontaire pour créer du lien social? Est-ce que c'est les trois, ou est-ce que c'est plus un des aspects pour toi?
Moi je crois, ce qui est clair, c'est que personnellement je ne pense pas à la mort de l'euro, tu vois. Ça nous amènerait à une catastrophe. Enfin, ça, c'est politiquement, je pense que la mort de l'euro totale, tu vois, alors que l'euro, normalement, est créé pour aider justement, tu vois, ce qui se passe avec la Grèce, ce qui se passe avec l'Espagne, tout ça. Bien sûr qu'on doit aider les pays à s'en sortir, certains pays. Bon, jusqu'où il y a des limites, bien sûr, mais c'est quand même important d'aider, puisqu'on avait créé ça.
Ouais.
Et quand on a créé la monnaie unique, l'euro, on a complètement oublié de créer la monnaie sociale. C'est-à-dire, normalement, on aurait dû, ça aurait dû être une monnaie sociale, tu vois. Mm-hmm. Maintenant que la catastrophe, elle est là, il n'y a pas de monnaie sociale. T'as chacun qui essaye de tirer les marrons du feu, ça c'est la politique générale. T'as l'Allemagne, tout le monde disait l'Allemagne c'est merveilleux et tout. En Allemagne les salaires baissent à une vitesse grand V, il n'y a plus d'augmentation, il y a une stabilité. Ce qui va se passer en France aussi, on va parler de baisser les salaires bientôt. Et ça, normalement dans une Europe sociale, ça aurait dû pas être possible parce qu'il y a tellement un fonds monétaire important, même qui est l'argent qui est créé chaque jour, c'est énorme par rapport à ce qu'on a besoin, mais qui est ridicule par rapport aux États-Unis. Tu vois. La création monétaire aux États-Unis, c'est il y a un an, là, ils ont créé, je sais pas combien, 1000 milliards de dollars.
Oui, c'est beaucoup.
Un coût énorme et pour un résultat tout petit, tu vois, le résultat. Et nous, à côté, on est des rigolos, on est là.
Oui, parce que ça dépend comment c'est créé. C'est pas créé pour les hommes, hein. C'est créé pour les banques.
Pour les
banques, c'est pas la même chose.
Voilà,
hein.
C'est créé pour sauver les banques.
Ouais.
Comme si, quand on coule le navire, quand il est au fond, on dit bon, on va essayer de.
C'est les banques et l'euro d'abord.
Voilà, c'est ça. Alors, là-dessus, oui.
Mais comment tu le vois, alors, ce sel? Alors, c'est sel et c'est jeu.
Comment tu le vois,
c'est une réaction, c'est une défense? C'est comment tu vois ça?
Le sel, bon, c'est déjà.
Ou est-ce que c'est une action volontaire indépendante?
Qu'il y a une certaine misère par rapport au lien social. Le lien social qui est lié, si tu veux, au travail, tu vois, le travail, parce que le travail ne crée pas de lien social. Le travail, dans certains cas, un petit peu, mais souvent, les personnes, ils te disent mais on n'a pas le temps, nous on travaille.
Ouais.
Toi, ça va parce que tu ne fais rien. je l'ai entendu des centaines de fois, on m'a dit. Mais je travaille tous les jours 10 heures en moyenne, je fais de l'informatique, je suis dans les réseaux sociaux, ah non mais ça c'est pas du travail, donc je dis donc tous les gens qui sont pas considérés comme du travail, il y a plein de métiers, c'est pas du travail, tu vois,
oui, oui, oui.
Et pourtant ils gagnent beaucoup d'argent,
oui.
Dans les banques il y a des gens qui gagnent juste en manipulant 5 minutes l'ordinateur, ils peuvent gagner ce que tu gagnes en 6 mois, tu vois,
oui.
On connaît les traders et tout le bazar, là, bon, c'est des choses affolantes. Alors bon, c'est des. L'histoire du lien social, c'était le but du début. Hein. C'était. Si on prend François Plassard, qui reste pour moi une référence, c'était dans pas mal de choses, François Plassard disait il faut partager le travail, libérer des, par exemple des emplois, tu vois, en travaillant moins. Mmh. Bah, beaucoup, à un moment, on c'était pas travailler plus pour gagner plus, c'était on va travailler moins pour libérer des emplois. Et ça, bon, on en est toujours au même point. Et si on veut vraiment que tout le monde participe à l'économie, il faut diminuer le temps de travail et répartir le travail sur tout le monde. D'une certaine manière, c'est difficile parce qu'il y a une question de formation, mais c'est aussi utile pour certains métiers, par exemple, des métiers difficiles. C'est pas un maçon, par exemple, quand il a fait 8 à 10 heures par jour, on va pas lui faire faire 12 heures.
Donc d'après ce que tu me dis, apparemment tu as une analyse économique assez poussée. Pour toi, le sel, c'est une réaction de défense.
Alors, c'est une réaction de défense.
Mais donc ça veut dire que c'est une valorisation d'un autre type de travail. Il y a bien ici, là, il y a quelque part une monétisation nouvelle qui se fait. Alors pourquoi
alors
ça
une monétisation, oui. Tu peux monétiser le temps libre, si tu veux.
Oui, oui.
Le temps libre, c'était libérer du temps pour déjà que tout le monde ait du temps libre, plus y compris au niveau scolaire, tu vois, diminuer le temps de travail scolaire, parce que ne pas entraîner les gamins à faire leurs 8 heures par jour systématiquement pour qu'ils puissent assimiler plus tard leurs 40 heures, la semaine de 40 heures, tu vois. Si on en est là à revenir à la semaine de 40 heures comme en Allemagne. En Allemagne on était à 32 heures, maintenant il y a des boîtes qui refont 40 heures. Bon, c'est pas ça, ça c'est pas le progrès. Le progrès social, c'est que chacun puisse partager du temps libre. Alors bon, il y a eu des essais de temps libre, je sais pas, la RTT, tout ça, là, c'était des essais de temps libre. Mais pour le temps libre, il faut pas diminuer les salaires non plus, parce que le temps libre, si tu veux, si tu n'as pas d'argent, c'est là qu'on...
Oui, mais est-ce que les sels ne peuvent pas remplacer l'argent?
Voilà, alors, c'est là que les sels avaient leur importance. C'est-à-dire, il y a eu un balancement...
C'est plus le cas aujourd'hui.
En 2003, il y avait ça. Il y avait un regain là, d'activité au niveau des sels, vers 2003-2004, et qui était... c'était lié un peu à tout ça, la mise en place de la RTT, tout ça. Les gens étaient libérés le vendredi après-midi, tu vois, souvent même des gens le vendredi total.
D'accord.
Et à ce moment-là, il y avait plus d'organisation. Puis après, quand il y a eu l'histoire du travailler plus pour gagner plus, les heures supplémentaires aussi, on va défiscaliser les heures supplémentaires. Alors ça me fait rigoler. Tout à l'heure, il y a une dame qui disait... comment faire si j'ai envie de travailler, vu que je travaille pas beaucoup pour les charges et tout ça, je dis, il suffit de défiscaliser. Pour permettre aux gens qui font des petits boulots, qu'ils ne soient pas du tout comme auto-entrepreneur. Par exemple, auto-entrepreneur, moins de 10 000 euros mettons, par an, on ne paye rien.
Est-ce qu'il n'y a pas un renouveau des monnaies locales depuis 2008, justement, le renouveau de la crise aussi?
Alors là, on est rentré dans la nouvelle phase. Là, on est rentré dans une nouvelle phase significative.
Pourquoi il n'y aurait pas plus d'échanges en monnaie alternative, et même y compris des emplois créés, payés en monnaie alternative? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Pour moi, c'est possible aussi de payer une certaine partie.
Pourquoi une certaine et pas la totalité?
C'est à cause de la masse monétaire. La masse monétaire de la monnaie locale, pour le moment, elle est infinitésimale. Si tu prends l'abeille, on te parle de 50 000 euros. 50 000 euros, c'est une rigolade.
C'est une question de masse critique.
Oui, 50 000 euros, ça représente presque un riche, il a 50 000 euros sur son compte. Donc là, 50 000 euros, c'est pour une masse de 200-300 personnes, tu vois. C'est pas beaucoup de transactions sur une année, par exemple. Tu vois.
Ouais.
Ça représente 50 euros par personne, 50-60 euros, on a vu ça à l'atelier tout à l'heure. Donc, il y aurait un développement pour que ça fonctionne super bien. Bon, l'abeille, je connais bien Françoise, Françoise Lenoble, elle est venue chez nous en Dordogne pour justement nous expliquer ce qu'elle expliquait tout à l'heure. Et ça, c'est... ça reste infinitésimal.
Oui, alors, à ton avis, est-ce que c'est pas dû au fait, est-ce que ça se développe pas plus aussi, alors peut-être que parce que la crise n'est peut-être pas suffisamment longue aussi, mais est-ce que c'est pas dû au fait, le fait que ça se développe doucement, au fait que les monnaies telles qu'elles sont proposées, les monnaies locales, elles sont designées particulièrement? Par exemple, l'abeille, il y a une histoire de fondant, il faut payer en euros une petite taxe, est-ce que tout ça n'est pas un frein au développement de ces monnaies?
À mon avis, c'est un peu un frein, mais on peut pas non plus... critiquer trop, puisque ça pourrait être une critique, tu vois, dire s'il faut pas compliquer les choses, expliquer par exemple déjà la monnaie locale à une personne, c'est déjà compliqué pour expliquer à une personne.
Ouais, c'est vrai.
Expliquer qu'elle est fondante en plus.
Ouais.
Donc, nous, on n'a pas compris tout de suite. On avait Monsieur Tardella, là, qui était le sel de Saint-Quentin en Yvelines.
Ouais.
Il a passé une année entière aux rencontres nationales à nous expliquer ça. Il avait fait un atelier sur les monnaies fondantes.
Ouais.
Et beaucoup ne comprenaient pas. C'est comme le puits sans fond, l'histoire du puits sans fond. Tous les États utilisent le puits sans fond.
C'est vrai.
Et puis, dès qu'on explique dans un sel qu'on va faire le puits sans fond, il y a des gens qui disent « Oui, mais vous créez de la monnaie, c'est interdit. » Enfin, tous les blabla...
Le problème, c'est d'en créer trop.
Oui, voilà, je dis « Mais c'est interdit, c'est interdit. » Oui, il y a plein de choses qui sont interdites. On ne doit pas faire pipi contre les murs, on doit pas... enfin, tout déconner.
Oui, mais il y a 10 ans, on n'avait pas le droit de jouer au poker.
Voilà.
En dehors des casinos.
Oui,
maintenant,
voilà,
on peut jouer au poker partout.
Maintenant,
alors, ce qui était interdit hier n'est pas forcément interdit demain.
L'État est content, puisque... Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où on touche de l'argent, des dividendes sur tout ça, le poker, on va bientôt, ça va être taxé, il va y avoir plein de choses. Le loto, ça va être taxé aussi, dès qu'on gagne plus de telles sommes.
Ouais.
Alors, bon, bah, après, l'État, il devient... je suis désolé, l'État, c'est le... Il a un aspect un peu proxénète. Hein. Il faut prendre les mots. Hein. Si jamais demain il peut taxer
l'abeille,
les drogues douces, non, mais les drogues douces, s'il peut les taxer, dans tous les bureaux de tabac, il y aura avant de l'herbe, des trucs comme ça. Bon, si l'État peut gagner de l'argent,
il le fait.
il n'a pas de scrupules. Les cigarettes bientôt vont être à 10 euros le paquet. Les gens ils vont fumer peut-être un peu moins, mais l'argent va rentrer. Et l'essence pareil, c'est-à-dire tout ce qui rentre de l'argent. Moi j'étais étonné hein, pour venir ici. On était à partir d'Orléans, là ça commençait à boucher sur l'autoroute et tout. J'ai dit, mais c'est dingue, là, chaque seconde, c'est des milliers, des millions d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État. Les départs en vacances, c'est des milliards qui rentrent. À chaque journée de départ en vacances, c'est un milliard d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État.
Ouais, bien sûr.
Et les gens, ils sont tout contents. Hein, et, ils partent en vacances et ils ont attendu 11 mois pour partir en vacances. Alors que, bon, si on choisit le mode de vie aussi, le mode de vie est aussi un choix. Moi, je suis parti en Dordogne en 85. Parce que je ne pouvais plus vivre dans la banlieue parisienne. J'ai tout fait. Je faisais de l'asthme, j'étais malade. C'était vraiment... il fallait que je parte. Et je passais chaque jour, pour ma profession, 3-4 heures dans la voiture autour de Paris. Et c'était infernal. Et à un moment, on dit... Et alors là, les monnaies locales, c'est pareil. Si à un moment, on dit, stop, on va faire les monnaies locales. Mais alors là, il faut y aller franco. Il faut faire de la monnaie locale. Et il ne faut pas faire des... Jouer à la... J'avais une ex-femme qui disait...
L'épicerie.
Elle dit, les selles, c'est de l'épicerie. Vous jouez à la dinette comme quand tu étais gosse.
Oui, oui.
Oui,
c'est vrai. Toi, tu dis qu'il ne faut pas hésiter à créer de la monnaie, bien sûr.
Il ne faut pas hésiter, il faut créer de la monnaie. À partir du moment où on est... alors, les gens disent, mais est-ce qu'on a le droit encore? Bien sûr, on le prend, le droit, on fonce. Et après, de toute façon, à un moment ou à un autre... en plus, c'est une monnaie que tout à l'heure, il parlait d'adossée. Elle est adossée ou non adossée à l'euro. Là, tout ce qui se fait, c'est adossé à l'euro pour le moment.
Oui.
Là, peut-être où ça réagira, c'est si elle n'est plus adossée à l'euro, ou vraiment. Mais là, ça va être une autre histoire. C'est pour qu'elle ne soit pas adossée à l'euro.
Il y en a déjà sur Internet des monnaies non adossées à l'euro.
Il y en a déjà.
Il y a Bitcoin, il y en a.
Alors, il y en a déjà. Existe. Mais après, il y a l'histoire de la confiance. Tu vois,
bien
parce
sûr.
Que des monnaies, il y en a plein. Les grandes surfaces font de la monnaie, si tu veux. Quand on te fait un bon d'achat de 5 euros, bon d'achat de 5 euros, par exemple, c'est de la monnaie. C'est-à-dire, on va te donner les cartes de fidélité, c'est que ça. Les cartes de fidélité, c'est de la monnaie aussi. Tu vois, on te crée de la monnaie, on te crée de la monnaie. Non, moi je pense à l'avenir de la monnaie, des monnaies locales. D'ailleurs, c'est pour là que
Donc c'est une question finalement de droit équitable entre les hommes, parce qu'il y en a qui se permettent aujourd'hui de créer la monnaie et qui ne voudraient pas que les autres le fassent, non?
Oui, il y a ça aussi.
C'est pas un peu ça?
Il y a toujours ça.
Il y a un peu ça. Est-ce que les banquiers ne se permettent pas de créer la monnaie?
Le banquier, il se permet tout. tu vois, moi je suis dans les minima sociaux, je suis au RSA. J'ai mon banquier, il se permet de, si le RSA arrive le 5 et si le 4, il y a un chèque qui arrive, il me prend 10 euros d'amende.
Ouais.
Ça, c'est une honte. 10 euros, c'est une heure de travail, tu vois. C'est l'équivalent d'une heure de travail. Et puis, c'est 8 baguettes acheté au boulanger, tu vois. C'est, ouais, ouais, et lui, ouais, simplement, il te dit, mais j'y peux rien, c'est l'ordinateur.
Ouais, ouais.
Bon, et plein de choses, ouais, comme ça. Ouais. Et t'es forcé, ouais, d'aller râler, mais pour aller, ouais, râler, tu dois prendre ta voiture et faire 25 km.
Et tu vas payer plus que l'amende.
Et oui, tu vas payer plus que l'amende. Et puis, il va falloir aller discuter avec un directeur. Parce que l'employé, il te dit, à la banque, il te dit, moi, j'y peux rien, c'est l'ordinateur. Et puis, moi, j'ai au-dessus le directeur, vous comprenez. Mais pourquoi avant vous le faisiez, puis maintenant? Alors il dit, c'est parce que le monde a changé. Mmh. Nous, les banques, j'ai dit, vous voyez, même vous êtes encore là aujourd'hui, moi c'est ce que je dis à ma banquière, qui est très gentille, j'ai dit, vous êtes là aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine, ça sera fermé. Vous serez remplacé par un, pas un distributeur, il y est déjà, mais par, il y aura une vitre, il y aura une vitre, ouais, et puis ça sera fini, il n'y aura plus d'agence, ça sera des machines dedans. Alors, mais il y aura toujours le directeur. Le directeur, il sera là parce que lui, c'est le dieu. Hein, c'est... enfin, voilà, voilà. Mais j'étais assez heureux de venir ici. Parce que,
ouais. Comment tu vois l'évolution des scènes dans les années qui viennent avec le recul que tu as? Parce que tu as quand même 18 ans de recul, c'est pas,
ouais,
mal. Hein.
Oui, ouais, ça fait pas mal.
Comment tu vois ça?
Bah, pour les scènes, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ils sont bien implantés, donc on en est à... connus, on en est à 450 qui sont connus, et puis on
en parles en France ou tu...
En France, oui. Ouais. Et il y en a une centaine qui sont toujours naissants, qui sont des petits groupes, mais qui ne sont pas forcément déclarés, hein, parce qu'on peut faire une selle de fête, là, à 10 ou 20, on fait un petit
Et tu penses qu'il faudrait passer à vitesse supérieure et de trouver d'autres designs de la monnaie et de la créer autrement, hein?
Oui, moi je pense que ça serait bien d'associer ce qu'on a un peu discuté aujourd'hui, associer les selles, aux monnaies complémentaires, et qu'on puisse avoir même une parité avec le jeu, puisque le jeu c'est aussi important. Peut-être justement le jeu peut servir de... C'est pour ça que je suis venu, parce que je pense que le jeu et les partenaires du jeu qui sont partout un peu indépendants peuvent participer à l'élaboration des monnaies locales.
Oui.
Et ça c'est important parce que c'est une réserve de gens qui sont dans l'ensemble assez autonomes.
Ouais.
Là, j'en ai rencontré quelques-unes et quelques-uns qui sont là. Et ça, c'est assez bien de voir qu'il y a des gens qui impriment leur carnet du jeu, qui commencent à faire des échanges. J'ai vu, par exemple, sur un carnet, là, des échanges de prêts de voiture qui se font en jeu.
Ouais.
C'est assez extraordinaire, j'avais jamais vu.
Ouais, c'est vrai.
Des gens qui ont acheté une voiture à plusieurs.
Ça devient conséquent, prêt de voiture, c'est pareil.
Prêt de voiture, c'est sympa.
Ouais.
Après, c'est pareil, comment ça se passe? Tout est possible, c'est-à-dire on peut envisager un monde près de voiture. Ça c'est après avec les communes aussi, parce que il faut pas oublier qu'il y a un gros travail à faire avec les élus locaux. Quand on parle tout à l'heure, il y avait Dominique Voynet qui était là. C'est vrai, les élus locaux ont une charge très très lourde au niveau social.
Ouais, ouais.
Au niveau social, que ce soit sur le logement, ça soit et puis c'est-à-dire pour le citoyen. Lui, il voit l'élu, s'il n'a pas ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est de la faute de l'élu. Mais l'élu, il est encadré, il est pris dans
l'étau.
C'est un étau, ouais. Et l'étau, qui c'est qui fait l'étau? C'est
la finance aussi.
L'étau, la finance et l'État.
Et puis un peu les électeurs aussi quand même. Hein.
Et les électeurs, oui, parce que les électeurs, c'est vrai qu'ils sont un petit peu en bout de chaîne, ils sont un peu paumés, hein, les électeurs, quand on voit les dernières élections, alors on entend tout le pire, le meilleur, tout le monde, c'est tous pareil, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on ne change pas une société, même en une vingtaine d'années. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans les alternatives, parce qu'avant, j'avais une vie totalement réglée, j'étais chef d'entreprise et tout ça. Et à un moment, il y a eu une rupture, et la rupture, c'est quand on prend conscience. Quand on prend conscience, qu'on se fait entourlouper partout, par des choses, ça soit tout ce qui actuellement, les gens deviennent, ils commencent à devenir tous procéduriers.
Ouais.
Parce qu'ils ont vu qu'aux États-Unis, aux États-Unis, on prend l'exemple 10 ans après, toujours. Ouais. Aux États-Unis,
tout passe par le tribunal.
Tout passe par le tribunal. Tu vas chez ton toubib, le toubib, il te dit.
Tu embrasses une fille au tribunal.
Oui, ça déjà c'est une chose, mais quand tu vas chez ton toubib, il dit que tu as un rhume et puis que tu n'as pas un rhume, tu vas au tribunal. Tu dis, merde. J'ai donné 20 euros au toubib, mais il n'est pas capable. Tu vois. Et tout comme ça. Et aux États-Unis, c'est on est procédurier. Mmh. Et en France, ça commence. Moi, j'ai plein d'amis qui sont dans des procès. Tu es en procès avec ton propriétaire, tu es avec ton procès avec ton docteur, tu es en procès avec ton chirurgien.
Tu sens que ça se tend un peu, quoi.
Et ça se tend. Ouais. Et j'espère qu'au niveau lien social, les monnaies complémentaires, les selles, le jeu et tout ça, dans un proche avenir, ça pourra recréer. Ce qu'on attend, c'est une vie meilleure et plus de liens sociaux.
D'accord.
Voilà.
Super. Merci beaucoup, Daniel,
pour
cet échange superbe.
Des tripes.
Ouais, non, je suis très content. Un très beau moment avec toi. J'espère qu'on pourra se revoir une prochaine fois.
Pas de problème.
Et puis, je me sens un peu lié à toi, puisque toi qui. Je suis aussi originaire de Bordeaux, comme tu as pu le noter, j'ai un petit accent.
Bordelais, ouais.
Un petit accent mélangé.
Je vis là-bas parce que c'est bien. Je vais à Bordeaux assez régulièrement. Bon, dans le Périgord, c'est un peu en recul à l'intérieur, mais c'est une bonne région.
C'est un bel endroit.
Et puis, c'est aussi une région qui est quand même. Très social. Il y a quand même beaucoup de choses sociales qui se font grâce aux conseils régionaux, grâce aux conseils, le conseil général, les conseils généraux sont aussi. Ils ont beaucoup de travail à faire parce que on est aussi tout 10-15% de chômage dans toutes les régions
Du sud-ouest, plus,
20%
plus,
aussi.
Oui, c'est plus.
Donc il y a du boulot.
Mais
merci.
Merci beaucoup, Daniel. Moi, je vous laisse maintenant sur cette fin dans Monnaie Libre. À une prochaine fois. Puis je vous laisse à ton générique fétiche No More Dreams de Nighter. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Monnaie Libre. Aujourd'hui, je reçois Daniel. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer là, pour cette émission. Là. Ça va être sympa.
Oui, on espère bien. Il n'y a pas de raison. On est à Montreuil, l'événement annuel.
Les sixièmes rencontres.
Sixième rencontre des monnaies locales complémentaires. Alors, et Daniel, toi, tu as un parcours extraordinaire puisque tu es dans les systèmes d'échange locaux avant même qu'on se rende compte qu'il y avait des problèmes de monnaie, puisque dès 1994,
j'avais vu sur un petit journal local un gars qui s'appelait Poulain qui avait créé une monnaie locale. Alors c'était assez amusant à l'époque, il y avait des petits billets et c'était la monnaie locale, c'était la bebe. Et donc un journal local qui avait fait tout un article sur ce gars-là qui lançait les selles n'existaient pas encore, puisque c'est à la suite de ce petit article sur le journal qu'on a commencé à se renseigner un petit peu. Et on a trouvé une rencontre dans le sud-est de la France. Je pense que c'était dans Pierre Rabhi, je crois, qui organisait ça, une rencontre pour avec des gars qui étaient venus des Let's Anglais. Les Let's Anglais, c'était déjà en Angleterre, ça se développait, les systèmes d'échange local, anglais, qui s'appelaient les Let's.
Oui, LETS, ce qui veut dire en anglais à l'envers, c'est Local Exchange Trade.
Voilà,
Trading System.
Et alors, on a eu une grosse documentation tout en anglais, on a commencé à traduire ça un petit peu. Et puis, peu de temps après, on a eu quelques réunions dans le Périgord Noir, là où j'habite. Et puis, à une dizaine, on a pris un cahier et puis on a dit on va essayer de gérer un système d'échange local. Et puis il y a eu, au mois de septembre, il y a eu une rencontre.
Ça s'est fait parce qu'il y avait la nécessité de le faire ou c'était une expérimentation?
C'était un grand moment de changement. C'était un moment où on sentait qu'il y avait une certaine crise qui commençait à naître déjà à l'époque.
Devenir pesante, oui.
Voilà, ça commençait à être pesant. Moi, j'étais en pleine période de mutation. J'avais plus d'emploi, je m'intéressais beaucoup aux alternatives. Et alors, moi-même, j'avais créé une association qui s'appelait Archisam 24. C'était une association pour essayer de faire de l'entraide entre les différentes personnes du local. Et puis, on voit d'un seul coup qu'on a possibilité de créer un SEL. Alors, on se rend à Mirepoix. Mirepoix, c'était en Ariège. Et là, on était... trois ou quatre là de Dordogne, et on se rencontre avec François Théris, qui était un innovateur qui a créé le premier SEL, le SEL pyrénéen.
D'accord. Alors,
c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ça se passait dans la gare de Mirepoix, c'était sur deux jours. Alors avec plein de gens, moi à l'époque je connaissais très peu de gens dans ce milieu-là. Il y avait des économistes, il y avait Daniel Farjas que j'ai rencontré pour la première fois. Ça a été un initiateur en 98 du jeu. Et tous ces gens-là...
Qui est une autre monnaie locale, transnationale aussi.
On va en parler après, le jeu, ouais. C'est quelque chose d'important, parce qu'il y a eu un tournant en 98 avec le jeu. Mais jusque-là, on se lance dans l'aventure du SEL. Et puis, on fait une première rencontre nationale, donc l'année d'après, à Thiviers. Alors, c'est un peu mémorable, parce que à Thiviers, il y avait des gens de tous les coins de France, donc c'était un peu... tout le monde voulait créer. On se retrouvait un peu comme aujourd'hui où tout le monde veut créer une monnaie locale. Et là, tout le monde voulait créer un SEL. Tout le monde avait entendu parler. Et encore à l'époque, on n'avait pas vraiment Internet. Ça commençait tout juste. Les balbutiements d'Internet.
Oui.
95, 98, c'était vraiment le début. Et puis, nous, on crée le premier SEL, tranquille. Le SEL 24. SEL 24. Et le SEL 24, on est arrivé à 300 familles dedans, qui était vraiment un truc qui tournait bien.
Alors, sur quel principe? Comment la monnaie se crée?
Alors, c'était le système d'échange local, c'est-à-dire une heure égale une heure, c'était la base des premiers SEL.
Ouais.
On s'était inspiré donc du SEL pyrénéen. On faisait une gestion centralisée, donc très compliquée, réunion une fois par semaine pour faire les comptes, avec... on avait des chéquiers, c'était à chaque fois qu'on échangeait, on faisait un chèque du montant de l'échange, toujours sur la base du temps.
Du temps.
Une heure égale 60 unités de SEL. Et nous, comme on était en Périgord noir, on a choisi l'unité, la truffe. Donc une truffe égale une minute.
Une minute.
Voilà, et on s'est basé sur... ça commençait un petit peu partout à...
Alors qu'est-ce qui se passe là s'il y a un des membres du SEL qui se retrouve avec, je sais pas moi, 15 000 minutes
Alors ça a été dur à gérer. On a commencé à prendre exemple sur le SEL pyrénéen. On a dit on va mettre un maximum, on ne savait pas trop, tâtonnait.
Ouais.
3, 4 000, 5 000 le maximum, et puis 3, 4 000 en dessous. Et puis est-ce qu'on donne des unités à ceux qui rentrent? Moi personnellement j'étais pour... pour faire un peu de propagande, pour montrer que... pas de faire carrément un puits sans fond, parce qu'il y a des SEL qui faisaient des puits sans fond aussi, puits sans fond, donc on donnait beaucoup d'unités aux gens. Surtout, on donnait des unités de SEL, par exemple aux bénévoles. Le bénévole qui venait, qui s'occupait d'une tâche dans le cadre du SEL, on le rémunérait en unités. Mais ça, c'était pris sur un puits sans fond. Alors là, très vite, il y a des SEL qui ont dit « Non, pas de puits sans fond, tout ça. » Alors on a commencé à prendre des cotisations sur les membres en unité locale et qu'on répartissait sur les...
C'est-à-dire, une sorte de taxe interne.
Voilà, interne, c'est-à-dire on disait « chaque trimestre, on prend, mettons, 30 unités. » Et ça, on les prélevait sur le compte automatiquement. Et vu qu'il y avait une comptabilité centralisée, on pouvait le faire. Et puis très vite, on avait donné 200 unités à chaque membre au début, et ils se retrouvaient avec zéro très vite.
Oui, bien sûr.
Ceux qui n'avaient pas fait d'échange, ils étaient avec zéro, donc il fallait qu'ils se mettent au travail, entre guillemets.
Oui, oui.
Et il y avait beaucoup d'échanges, les livres, les CD, les DVD, tout ça s'échangeait beaucoup lors des bourses locales d'échange. On en faisait une par mois. Et puis jusqu'au jour où il y a un gars qui était un des créateurs, qui avait un terrain de camping, il a décidé de faire tous les mercredis une bourse d'échange.
Ouais.
Donc on a eu enfin un marché local. Et ça a été vraiment une révolution, parce que tous les gens venaient, ceux qui avaient des produits locaux, des légumes, tout ce qui pouvait être
C'est-à-dire que le marché était plus fréquent, c'est-à-dire que c'était une fois par mois, c'est passé une fois par semaine.
Une fois par semaine,
ça qui était révolutionnaire.
Et sur le même lieu.
Sur le même lieu.
On prend l'habitude, et c'était un terrain de camping.
Ouais.
il n'y avait qu'en juillet et août, puisque là, le gars faisait camping, donc en juillet et août, on ne le faisait pas. Mm-hmm. On le faisait une fois par mois quand il y avait des creux. Mais là, ça commençait vraiment à prendre conscience que le sel pouvait aider les gens. Et on est arrivé à 350. Et quand on est arrivé à 350 familles, il y a eu le problème. C'était un problème dans l'esprit des gens. Oui, il y en a qui étaient pour la comptabilité centralisée, d'autres qui disaient « Ouais, ça serait bien qu'on ait un carnet un peu... » Alors, c'était prématuré encore pour le jeu, puisqu'on n'avait pas lancé le jeu. Et puis, en 97-98, je retrouve Daniel Farjas, que j'allais voir régulièrement à Vingros, et puis je m'étais mis donc dans le sel de Vingros, à côté de Perpignan.
Ouais.
Et puis, j'allais le voir, et puis je voyais que son sel aussi... le sel de Perpignan marchait de plus en plus mal. Et à cause de... Si vous connaissez un petit peu Perpignan, c'est que des vallées parallèles. Ouais. Et c'était compliqué pour faire les échanges d'une vallée à l'autre.
D'accord.
Beaucoup de distance, tout ça. Et lui, dit, c'est simple, si le sel, il marche pas, on va revitaliser les sels en créant le jeu. Alors, comment... Alors, il y a un article...
Donc, le jeu qui permet de faire les échanges intercels, intercels,
et puis amener plein de gens qui sont... d'une vallée à l'autre qui en avait marre un petit peu du sel, parce qu'il fallait payer une cotisation, tout ça.
Problème en euros, enfin,
oui,
en monnaie officielle.
Et là, on se retrouve dans les cotisations, c'est le problème des lois de 1901.
Ouais.
La loi de 1901, c'est super, mais chaque fois qu'il faut payer une cotisation, on perd 30% des membres. Ça, c'est parce que les gens oublient. Alors, le trésorier, il en a marre. Au bout de 3 mois, il fait pas de relance, d'ailleurs. Donc, au bout d'un moment, il y a des gens qui disparaissent. Et il y a des nouveaux qui arrivent, donc ça se maintient, mais on perd une énergie.
Et surtout, est-ce que tu es d'accord avec le fait que c'est paradoxal de dire on crée finalement un système d'échange à base d'une monnaie locale à nous, une monnaie qu'on utilise, et de te faire payer dans une monnaie qui n'est pas à nous?
Alors ça, c'est paradoxal, oui. Et alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces euros?
Oui,
parce que qu'est-ce qu'on fait de ces euros, sachant que la plupart des gens n'ont pas trop d'euros quand même dans les alternatives, donc puisque c'était beaucoup d'alternatives qui étaient dans le système. Alors là, il y a eu plein de choses qui sont passées. On a créé un blog qui s'appelle Monnaie associative et locale, qui existe toujours. Hein. C'est Daniel Farjas qui l'avait créé avec moi. On avait travaillé là-dessus. Il y a une trentaine de textes qui sont toujours présents. Comme il est décédé en 2009, donc pour garder la mémoire de la personne, on a gardé moi j'ai repris le blog, et on continue à mettre des textes de temps en temps, mais pas trop, tu vois, c'est
d'accord.
Un peu pour garder la mémoire, surtout des textes qu'il avait écrits, que c'est un peu souvenir. Hein, alors en 98, donc on lance le jeu. Jardin d'échange universel.
Qui vient du Canada, non?
C'est oui, ça? Alors, non, le Canada, ça ne vient pas du Canada. C'est-à-dire, au Québec, ils reconnaissent maintenant qu'ils se sont inspirés de Daniel Farjas, qui avait lancé, parce que Daniel Farjas faisait les fichiers écologiques à l'époque, et il avait des contacts avec beaucoup de Québécois qui lui achetaient ses fichiers écologiques.
Uh-huh.
Les fichiers écologiques, c'était des photocopies de textes sur les alternatives dans plein de sujets, et sujets médicaux, sujets l'écologie, tout ça, enfin, c'était très intéressant. Et il avait beaucoup de clientèle québécoise. À force, il avait fait un annuaire des Québécois. Et quand il a créé le jeu, et ça fait un peu pauvre, comme de la poudre. Là-bas, ils ont dit le jeu, c'est formidable, voilà, parce qu'ils n'avaient pas testé encore le sel. Le sel, c'était, ça avait fonctionné aux États-Unis.
Alors le jeu, c'est quoi le principe?
Alors le principe du jeu, c'est comme le sel, sauf que chacun agit en sa conscience, c'est-à-dire à son carnet, et crée son réseau autour de lui.
De lui.
C'est-à-dire, chacun devient
auto-comptable.
actionnaire de son compte. C'est-à-dire, si on parle d'un système capitaliste, il devient. Chaque action qu'il va faire, ça va être pour son intérêt. C'est-à-dire, il va éventuellement refaire des carnets, les confectionner, et puis avoir des carnets pour donner aux gens qui vont être autour de lui, pour pouvoir faire des échanges.
Ouais.
Et progressivement, il crée son réseau autour de lui.
Alors, le principe, c'est qu'il. Un membre du jeu, donc gère un compte en moins et en plus.
Voilà,
il n'y a pas vraiment de limite, c'est ça?
C'est pareil, on reste dans le milieu raisonnable, c'est-à-dire parce que dès qu'on a 5 000 ou 10 000 Mettons 6000 unités de jeu, ça représente environ 60 heures.
Ouais.
Donc c'est une semaine et demie. Donc on a une semaine et demie de débit. Donc c'est en temps, c'est toujours basé sur le temps. Il faut pouvoir le rattraper après. Donc il ne faut pas descendre trop bas. Daniel Farjas lui préconisait qu'on ne pouvait pas être en négatif. J'ai jamais été trop de son avis là-dessus.
Mais si on n'est pas négatif, d'où vient l'argent, hein?
Alors voilà. Non, mais lui, c'était très simple. Alors, parce qu'il ouais. pensait à une chose. L'argent, si tu veux, les unités. Puisqu'il pensait revitaliser les selles, il pensait que les gens qui avaient, par exemple, 10 000 unités sur leur selle pouvaient faire un transfert d'unités, puisque ça leur appartenait, les unités, et les mettre sur le jeu, sur le carnet du jeu. Et alors, il y a des selles, par exemple, le sel Gabar à Pessac,
oui.
il autorise ça. C'est, si tu as, par exemple, 6000 unités sur ton compte de sel, parce que tu as bien fait plein de trucs, tu as échangé beaucoup de livres, beaucoup de...
Mais par contre, comment contrôler le carnet de quelqu'un? En fait, il y a des signatures qui sont faites à chaque transaction,
oui, on n'écrit jamais sur son carnet. C'est-à-dire sur son
Ouais, c'est pas nous qui écrivons sur le
jamais.
Carnet. Jamais.
Voilà. On ne doit pas avoir un seul truc sur son carnet,
ouais.
sauf quelqu'un qui aurait les bras coupés ou qui n'aurait pas de main. Donc, à ce moment, ça se saurait.
Ouais.
Mais en principe, c'est toujours l'autre qui écrit sur le carnet et donc on est garant que la personne qui a écrit l'échange, on le retrouve sur le carnet de l'autre, c'est-à-dire qu'on a possibilité qu'il y ait une écriture identique sur les deux carnets.
Double écriture.
Alors double écriture et en principe, bon, bah, à ma connaissance, il y a eu un ou deux trucs un peu bizarres, mais ça vaut même pas le coup d'en parler.
C'est-à-dire,
c'est vraiment
anecdotique.
Des erreurs, c'est-à-dire soit une erreur d'écriture ou un truc comme ça, mais c'est vraiment anecdotique.
D'accord.
Mais il n'y a jamais eu de faussaire du jeu, ça, j'en ai pas à ma connaissance. Ça, et moi, je sais que la meilleure preuve, c'est que j'ai tous mes carnets de jeu depuis 98. Je dois en avoir 4 ou 5 à la maison. Et c'est souvent que je les regarde parce que c'est important, parce qu'il y a plein de numéros de téléphone, de gens qu'on connaît, des fois qu'on rappelle. On dit tiens, lui il y a longtemps que je ne l'ai pas appelé, qu'est-ce qu'il devient ah bah tiens, lui il est en Bretagne, tiens j'irai bien le voir. Et on s'aperçoit qu'ils ont toujours le carnet du jeu. Partout. Alors ils ne l'ont pas toujours sous la main, mais par exemple, je sors jamais de chez moi sans mon carnet du jeu. Il est dans...
Tu l'as là avec toi?
Oui, bien sûr, il est dans la sacoche.
Ouais.
J'ai la pochette même qu'a fait... Il y a une pochette pour mettre les carnets du jeu. Ils sont dedans, je te les montrerai tout à l'heure, là, pas de problème. Et ça, c'est important, c'est-à-dire parce que à tout moment, j'ai aussi toujours un ou deux carnets vierges que je peux... tiens, tu veux faire partie du jeu, tiens, voilà un carnet. Qu'est-ce que je te dois pour le carnet? Alors, il y a un tarif, c'est 20 unités de jeu pour le carnet.
Ouais.
Si tu veux pas ça, bon, bah, à ce moment-là, tu peux te l'imprimer toi-même.
Ouais.
Tu as une possibilité d'en imprimer. Tu as aussi la possibilité d'acheter des couvertures. On a des couvertures toutes faites, cartonnées. On peut en commander par 5 ou par 10 à un gars qui en avait fait imprimer. Mais tout est... Et puis à chaque fois qu'on fait une rencontre, il y a toujours quelqu'un qui vient avec 10 ou 20 carnets pour faire fonctionner le jeu. Alors depuis ça s'est modifié, bon, le sel continue. Alors le sel, bon, il a explosé un peu vers l'an 2000, il s'est séparé, je parle du sel 24,
ouais.
Il s'est séparé en trois groupes. Il y a eu un sel qui est parti sur Bergerac, il y a eu un sel qui s'est appelé sel à vie, lui, bon... il végète complètement. Il y a eu le sel 24 terre, donc c'est encore celui dont je m'occupe. Le sel 24 terre, on est une trentaine à avoir tous un carnet du jeu et on n'a plus de comptabilité centralisée. Et puis, pour ma part, je reste donc fidèle au sel Gabar de Pessac, qui me sert quand je vais sur Bordeaux. Une fois tous les 2-3 mois, je vais à une bourse d'échange locale là-bas, bah, déjà pour rencontrer des amis, voir le lien social aussi pour l'organisation des rencontres annuelles, tu vois, parce que ça c'est important. Je dois en être à ma 14e rencontre annuelle, tu vois.
Ouais, d'accord.
Et ça c'est une semaine qui est réservée dans l'année pour ça. J'y vais, je crois que je connais 1000 personnes à peu près, des gens chaque année. On les voit pas tous les ans, tu vois, mais bon. Malheureusement, il y en a qui disparaissent aussi. Puis des fois, c'est malheureux, c'est des bons copains. C'est comme tout. Hein. Le sel, c'est la vie aussi. C'est la vie, la mort, tout. T'as plein de choses comme ça. C'est...
Et il y a un lien social comme ça dans la durée, dans le temps.
C'est très positif, le lien social. Bah là, tu vois, on est à Montreuil. Moi, je suis né pas loin, je suis né à Livry-Gardon, mais à Montreuil, j'ai travaillé sur Saint-Mandé, là, qui est pas loin, hein, à côté de Vincennes, pendant 10 ans. Et bah, ici, je connaissais déjà un petit peu de monde. Et puis là, je reviens, il y a plein de gens. Même tout à l'heure, tu vois, il y avait Dominique Voynet, qui est maire de, de Montreuil, qui est venu me serrer la main, tout ça.
Elle est passée, j'ai pas vu.
Oui, elle était là.
D'accord.
Elle était là, et puis elle était encore là, d'ailleurs. Elle était dans les parages.
Ouais.
Et bon, bah, c'est vrai que moi, je l'ai connue chez Les Verts, tu vois, à l'époque de... Elle était maire de Dole, je crois, à un moment, là, dans le Jura. On s'était rencontrés à une rencontre dans le Jura aussi. Et puis, c'est tous des gens, c'est des gens militants. C'est, alors, on entend que les Verts sont pas... mais si, les Verts, ils sont présents. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de ça.
Oui, c'est vrai.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec Françoise.
Ah, parce qu'il disait qu'il n'y en avait pas, alors qu'il y en a.
C'est comme des gens de gauche qui sont dans les selles, il y en a plein. Et puis, il y a des gens, même du FN, qui sont dans les selles. Et puis, on a mis dans la charte qu'il fallait... entre guillemets apolitique. On n'est pas vraiment apolitique, je ne sais pas, politique.
Anarchiste.
On ne connaît pas. non, anarchiste. Il y a des anarchistes.
Ouais.
Mais alors, bon, dès que tu n'es pas d'accord avec des gens, il y en a qui te mettent. Tiens, lui, il est anarchiste.
Ouais.
Lui, il est... Bon, on n'est pas pareil, c'est tout. Des fois, c'est vrai qu'on aurait tendance. Il y en a, j'en connais dans les scènes, certains qui sont vraiment anarchistes. Tu vois, moi, par exemple, on m'a fait un jour mon portrait, un photographe, ça se passait à Gap. Il m'a pris en photo, il m'a fait une photo magnifique. Et un jour, il m'a envoyé la photo. Elle est grande, elle a remporté un concours. Et tu sais qu'est-ce qu'il a mis derrière la photo ? J'étais étonné parce que c'était à une exposition de photos. C'était marqué « Lanard ». Putain, je l'ai toujours.
C'est
la
parce que c'est l'image qui s'en faisait.
L'image qui s'est faite, lui, et qui, quand il a fait son exposition, il a gagné un premier prix parce que c'est une photo qui est magnifique et qui m'a servi d'ailleurs même à ça. C'est une anecdote. Ça a tourné dans un film parce qu'on m'a demandé un film qu'on a tourné l'année dernière au mois de novembre. C'était un film qui dure 10 minutes. C'est un court métrage qui s'appelle La Traversée. Qui va sortir là-haut. Il est sorti le film, mais il va sortir un petit peu en court-métrage là dans le Périgord, tu vois. Puis on a un réseau de cinéma alternatif. Et La Traversée, bon, c'est parce que la personne a vu cette photo, Lanard, et il fallait avoir la barbe et tout ça. Alors, ça me fait rire, parce qu'on est catalogué. On est catalogué, comme le gars qui avait créé la monnaie locale, la Beubeu, là, tout de suite, quand on en parle maintenant. Quand je lis l'article 15 ans après, c'est marrant, c'est, ça fait rire plus qu'autre chose, avec une feuille de cannabis, tu vois.
Comment tu vois, toi, avec ton parcours, est-ce que tu vois le sel ou le jeu ou les monnaies complémentaires comme une réaction de, je dirais, contre, pour sortir de la monnaie officielle qui ne fonctionne pas, ou est-ce que tu le vois comme étant une béquille, ou est-ce que tu le vois comme une action volontaire pour créer du lien social? Est-ce que c'est les trois, ou est-ce que c'est plus un des aspects pour toi?
Moi, je crois, déjà, ce qui est clair, c'est que personnellement, je ne pense pas à la mort de l'euro, tu vois. Ça nous amènerait à une catastrophe. Enfin, ça, c'est politiquement, je pense que la mort de l'euro totale, tu vois, alors que l'euro, normalement, est créé pour aider, justement, tu vois, ce qui se passe avec la Grèce, ce qui se passe avec l'Espagne, tout ça. Bien sûr qu'on doit aider les pays à s'en sortir, certains pays. Bon, jusqu'où il y a des limites, bien sûr, mais c'est quand même important d'aider, puisqu'on avait créé ça. Et quand on a créé la monnaie unique, l'euro, on a complètement oublié de créer la monnaie sociale. C'est-à-dire, normalement, on aurait dû, ça aurait dû être une monnaie sociale, tu vois. Maintenant que la catastrophe, elle est là, il n'y a pas de monnaie sociale. T'as chacun qui essaye de tirer les marrons du feu. Ça, c'est la politique générale. T'as l'Allemagne, tout le monde disait l'Allemagne, c'est merveilleux et tout. En Allemagne, les salaires baissent à une vitesse grand V. Il n'y a plus d'augmentation, il y a une stabilité. Ce qui va se passer en France aussi, on va parler de baisser les salaires bientôt. Et ça, normalement, dans une Europe sociale, ça aurait dû pas être possible, parce qu'il y a tellement un fonds monétaire important, même qui est en... l'argent qui est créé chaque jour, c'est énorme par rapport à ce qu'on a besoin, mais qui est ridicule par rapport aux États-Unis. Tu vois. La création monétaire aux États-Unis, c'est... il y a un an, là, ils ont créé, je ne sais pas combien, 1000 milliards de dollars.
Oui, c'est beaucoup.
Un coût énorme, et pour un résultat tout petit, tu vois, le résultat. Et nous, à côté, on est des rigolos, on est là...
Oui, parce que ça dépend de comment c'est créé, c'est pas créé pour les hommes, hein. C'est créé pour les banques, ce qui n'est pas la même chose.
Voilà,
hein.
c'est créé pour sauver les banques.
Ouais.
Comme si, quand on coule le navire, quand il est au fond, on dit, bon, on va essayer de...
C'est les banques et l'euro voir, d'abord.
Voilà, c'est ça. Alors, là-dessus... oui.
Mais comment tu le vois alors ce sel? Alors c'est sel et c'est jeu. Comment tu le vois? C'est une réaction? C'est une défense? C'est comment tu vois ça?
Le sel, bon, c'est déjà.
Ou est-ce que c'est une action volontaire
indépendante? C'est déjà une défense parce qu'il y a une certaine misère par rapport au lien social. Le lien social qui est lié, si tu veux, au travail. Tu vois, le travail, parce que le travail ne crée pas de lien social. Le travail, dans certains cas, un petit peu, quand même, ça dépend. Mais souvent, les personnes, ils te disent. Mais on n'a pas le temps, nous on travaille.
Ouais.
Toi ça va parce que tu ne fais rien. je l'ai entendu des centaines de fois, on m'a dit. Mais je dis si, je travaille tous les jours, 10 heures en moyenne, je fais de l'informatique, je suis dans les réseaux sociaux. Ah non, mais ça c'est pas du travail. Donc je dis donc tous les gens qui ne sont pas considérés comme du travail, il y a plein de métiers, c'est pas du travail.
Tu vois, oui, oui, oui.
Et pourtant ils gagnent beaucoup d'argent.
Oui.
Dans les banques, il y a des gens qui gagnent juste en manipulant 5 minutes l'ordinateur, ils peuvent gagner ce que tu gagnes en 6 mois. Tu vois,
oui.
Bon, on connaît les traders et tout le bazar, là, bon, c'est des choses affolantes. Alors bon, c'est des l'histoire du lien social, c'était le but du début. Hein. C'était si on prend François Plassard, qui reste pour moi une référence, c'était dans pas mal de choses. François Plassard disait il faut partager le travail, libérer des par exemple des emplois, tu vois, en travaillant moins. Bah beaucoup, à un moment, c'était pas travailler plus pour gagner plus, c'était on va travailler moins pour libérer des emplois. Et ça, bon, on en est toujours au même point. Et si on veut vraiment que tout le monde participe à l'économie, il faut diminuer le temps de travail et répartir le travail sur tout le monde. D'une certaine manière, c'est difficile parce qu'il y a une question de formation, mais c'est aussi utile. Pour certains métiers, par exemple, des métiers difficiles, c'est pas un maçon, par exemple, quand il a fait 8 à 10 heures par jour, on va pas lui faire 12 heures.
Donc d'après ce que tu me dis, apparemment tu as une analyse économique assez poussée. Pour toi, le sel, c'est une réaction de défense.
Alors, c'est une réaction de défense.
Mais donc ça veut dire que c'est une valorisation d'un autre type de travail.
Oui.
Il y a bien ici, là, il y a quelque part une monétisation nouvelle qui se fait. Alors pourquoi
alors
ça
une monétisation, c'est... Tu peux monétiser le temps libre, si tu veux.
Oui.
Le temps libre, c'était libérer du temps pour déjà que tout le monde ait du temps libre, plus y compris au niveau scolaire, tu vois, diminuer le temps de travail scolaire, parce que ne pas entraîner les gamins à faire leurs 8 heures par jour systématiquement pour qu'ils puissent assimiler plus tard leurs 40 heures, la semaine de 40 heures, tu vois. Si on en est là à revenir à la semaine de 40 heures comme en Allemagne.
Ouais.
En Allemagne on était à 32 heures, maintenant il y a des boîtes qui refont 40 heures. Bon, c'est pas ça. Ça, c'est pas le progrès. Le progrès social, c'est que chacun puisse partager du temps libre. Alors bon, il y a eu des essais de temps libre. Je sais pas, la RTT, tout ça, là, c'était des essais de temps libre. Mais pour le temps libre, il faut pas diminuer les salaires non plus. Parce que le temps libre, si tu veux, si tu n'as pas d'argent... C'est là qu'on...
Mais est-ce que les sels ne peuvent pas remplacer l'argent?
Voilà,
alors,
c'est là que les sels avaient leur importance. C'est-à-dire, il y a
pourquoi
eu un balancement...
C'est plus le cas aujourd'hui
En 2003, il y avait ça. Il y avait un regain là, d'activité au niveau des sels, vers 2003-2004, et qui était... c'était lié un peu à tout ça, la mise en place de la RTT, tout ça. Les gens ont été libérés le vendredi après-midi, tu vois, souvent même des gens le vendredi total.
D'accord.
Et à ce moment-là, il y avait plus d'organisation. Puis après, quand il y a eu l'histoire du travailler plus pour gagner plus, les heures supplémentaires aussi, on va défiscaliser les heures supplémentaires. Alors ça me fait rigoler. Tout à l'heure, il y a une dame qui disait... comment faire si j'ai envie de travailler, vu que je travaille pas beaucoup pour les charges et tout ça, je dis, il suffit de défiscaliser. Défiscaliser pour permettre aux gens qui font des petits boulots, qu'ils ne soient pas du tout comme auto-entrepreneurs. Par exemple, entrepreneur, moins de 10 000 euros mettons, par an, on ne paye rien.
Est-ce qu'il n'y a pas un renouveau des monnaies locales depuis 2008, justement, le renouveau de la crise aussi?
Alors là, on est rentré dans la nouvelle phase. Mmh. Là, on est rentré dans une nouvelle phase significative.
Pourquoi il n'y aurait pas plus d'échanges en monnaie alternative et même y compris des emplois créés, payés en monnaie alternative? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Pour moi, c'est possible aussi de payer une certaine partie.
Pourquoi une certaine et pas la totalité?
C'est à cause de la masse monétaire. La masse monétaire de la monnaie locale, pour le moment, elle est infinitésimale. Si tu prends l'abeille, on te parle de 50 000 euros. 50 000 euros, c'est une rigolade.
C'est une question de masse critique.
Oui, 50 000 euros, ça représente presque un riche, il a 50 000 euros sur son compte. Mmh, donc là, 50 000 euros, c'est pour une masse de 200-300 personnes, tu vois. C'est pas beaucoup de transactions sur une année, par exemple. Tu vois.
Ouais.
Ça représente 50 euros par personne, 50-60 euros, on a vu ça à l'atelier tout à l'heure. Donc, il y aurait un développement pour que ça fonctionne super bien. Bon, la belle, je connais bien Françoise, Françoise Lenoble, elle est venue chez nous en Dordogne pour justement nous expliquer ce qu'elle expliquait tout à l'heure. Et ça reste infinitésimal.
Oui, alors, à ton avis, est-ce que c'est pas dû au fait, est-ce que ça se développe pas plus aussi, alors peut-être que parce que la crise est peut-être pas suffisamment longue aussi, mais est-ce que c'est pas dû au fait, le fait que ça se développe doucement, au fait que les monnaies telles qu'elles sont proposées, les monnaies locales, elles sont designées particulièrement. Par exemple, l'abeille, il y a une histoire de fondant, il faut payer en euros une petite taxe. Est-ce que tout ça n'est pas un frein au développement de ces monnaies?
À mon avis, c'est un peu un frein, mais on peut pas non plus... critiquer trop, puisque ça pourrait être une critique, tu vois, dire si il faut pas compliquer les choses, expliquer par exemple déjà la monnaie locale à une personne, c'est déjà compliqué pour expliquer à une personne.
Ouais, c'est vrai.
Expliquer qu'elle est fondante en plus.
Ouais.
Donc nous on n'a pas compris tout de suite. On avait Monsieur Tardella là qui était de celle de Saint-Quentin en Yvelines.
Ouais.
Il a passé une année entière aux rencontres nationales à nous expliquer ça. Il avait fait un atelier sur les monnaies fondantes.
Ouais.
Et beaucoup ne comprenaient pas. C'est comme le puits sans fond, l'histoire du puits sans fond. Tous les États utilisent le puits sans fond.
C'est vrai.
Et puis dès qu'on explique dans un sel qu'on va faire le puits sans fond, il y a des gens qui disent « Oui, mais vous créez de la monnaie, c'est interdit. » Enfin, tous les blabla...
Le problème, c'est d'en créer trop.
Oui, voilà, je dis « Mais c'est interdit, c'est interdit. » oui, il y a plein de choses qui sont interdites. On ne doit pas faire pipi contre les murs, on doit pas... enfin, tout déconner.
Ouais, mais il y a 10 ans, on n'avait pas le droit de jouer au poker.
Voilà.
En dehors des casinos.
Oui,
maintenant,
voilà,
on peut jouer au poker partout.
Maintenant,
alors, ce qui était interdit hier n'est pas forcément interdit demain.
L'État est content, puisque... Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où on touche de l'argent, des dividendes sur tout ça, le poker, on va bientôt, ça va être taxé, il va y avoir plein de choses. Le loto, ça va être taxé aussi, dès qu'on gagne plus de telles sommes.
Ouais.
Alors, après, l'État, il devient... je suis désolé, l'État, c'est le... Il a un aspect un peu proxénète. Hein. Il faut prendre les mots. Hein. Si jamais demain il peut taxer
l'abeille,
les drogues douces, non, mais les drogues douces, s'il peut les taxer, dans tous les bureaux de tabac, il y aura à vendre de l'herbe, des trucs comme ça. Si l'État peut gagner de l'argent, il le fait. Il n'a pas de scrupules. Les cigarettes bientôt vont être à 10 euros le paquet. Les gens ils vont fumer peut-être un peu moins, mais l'argent va rentrer. Et l'essence pareil. C'est-à-dire tout ce qui rentre de l'argent. Moi j'étais étonné pour venir ici. On était à partir d'Orléans, là ça commençait à boucher sur l'autoroute et tout. J'ai dit, mais c'est dingue, là, chaque seconde, c'est des milliers, des millions d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État. Les départs en vacances, c'est des milliards qui rentrent. À chaque journée de départ en vacances, c'est un milliard d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État.
Ouais, bien sûr.
Et les gens, ils sont tout contents. Hein. Ils partent en vacances et ils ont attendu 11 mois pour partir en vacances. Alors que, si on choisit le mode de vie aussi, le mode de vie est aussi un choix. Moi, je suis parti en Dordogne en 85. Parce que je ne pouvais plus vivre dans la banlieue parisienne. J'ai tout fait. Je faisais de l'asthme, j'étais malade. C'était vraiment... il fallait que je parte. Et je passais chaque jour, pour ma profession, 3-4 heures dans la voiture autour de Paris. Et c'était infernal. Et à un moment, on dit, Et alors là, les monnaies locales, c'est pareil. Si à un moment, on dit, bon, bah, stop, on va faire les monnaies locales, mais alors là, il faut y aller franco, il faut faire de la monnaie locale, et il ne faut pas faire des... jouer à la... J'avais une ex-femme qui disait...
L'épicerie.
Elle dit, les selles, c'est de l'épicerie, vous jouez à la dinette comme quand tu étais gosse.
Oui, oui.
Oui,
c'est vrai. Toi, tu dis qu'il ne faut pas hésiter à créer de la monnaie, bien sûr.
Il ne faut pas hésiter, il faut créer de la monnaie. À partir du moment où on est... alors, les gens, mais est-ce qu'on a le droit encore? Mais, bien sûr, on le prend, le droit, on fonce. Et après, de toute façon, à un moment ou à un autre... en plus, c'est une monnaie, tout à l'heure, il parlait d'adossée. Elle est adossée ou non adossée à l'euro. Là, tout ce qui se fait, c'est adossé à l'euro pour le moment.
Oui.
Là, peut-être où ça réagira, c'est si elle n'est plus adossée à l'euro, ou vraiment. Mais là, ça va être une autre histoire. C'est pour qu'elle ne soit pas adossée à l'euro.
Il y en a déjà sur Internet des monnaies non adossées à l'euro.
Il y en a déjà.
Il y en a.
Alors, il y en a déjà. Existe. Mais après, il y a l'histoire de la confiance. Tu vois,
bien
parce
sûr.
Que des monnaies, il y en a plein. Les grandes surfaces font de la monnaie, si tu veux. Quand on te fait un bon d'achat de 5 euros, un bon d'achat de 5 euros, par exemple, c'est de la monnaie. C'est-à-dire, on va te donner les cartes de fidélité, c'est que ça. Les cartes de fidélité, c'est de la monnaie aussi. Tu vois, on te crée de la monnaie, on te crée de la monnaie. Après, bon, bah... non, moi, je pense à l'avenir de la monnaie, des monnaies locales. D'ailleurs, c'est pour là que
Donc, c'est une question, finalement, de droit équitable entre les hommes. Parce qu'il y en a qui se permettent aujourd'hui de créer la monnaie et qui ne voudraient pas que les autres le fassent, non?
Oui, il y a ça aussi.
C'est pas un peu ça?
Il y a toujours ça.
Il y a un peu ça. Est-ce que les banquiers ne se permettent pas de créer la monnaie?
Le banquier, il se permet tout. tu vois, moi, je suis dans les minima sociaux, je suis au RSA. J'ai mon banquier, il se permet de... si le RSA arrive le 5 et si le 4... Il y a un chèque qui arrive, il me prend 10 euros d'amende.
Ouais.
Ça, c'est une honte. 10 euros, c'est une heure de travail, tu vois. C'est l'équivalent d'une heure de travail. Et puis, c'est 8 baguettes à acheter au boulanger, tu vois. C'est, et lui, simplement, il te dit, mais j'y peux rien, c'est l'ordinateur.
Ouais, ouais.
Bon, et plein de choses comme ça. Ouais. Et tu es forcé d'aller râler, mais pour aller râler, tu dois prendre ta voiture et faire 25 km.
Et tu vas payer plus que l'amende.
Et oui, tu vas payer plus que la banque. Et puis il va falloir aller discuter avec un directeur. Parce que l'employé, il te dit à la banque, il te dit, moi j'y peux rien, c'est l'ordinateur. Et puis moi j'ai au-dessus le directeur, vous comprenez? Mais pourquoi avant vous le faisiez, puis maintenant? Alors il dit, c'est parce que le monde a changé. Nous les banques, j'ai dit, vous voyez, même vous êtes encore là aujourd'hui, moi c'est ce que je dis à ma bancaire, qui est très gentille. Je dis, vous êtes là aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine, ça sera fermé. Vous serez remplacé par un pas un distributeur, il y est déjà, mais par il y aura une vitre, et puis ça sera fini, il y aura plus d'agence, ça sera des machines dedans. Alors, mais il y aura toujours le directeur. Le directeur, il sera là parce que lui, c'est le dieu, hein. C'est. Enfin voilà. Mais j'étais assez heureux de venir ici parce que.
Ouais. Comment tu vois l'évolution des scènes les années qui viennent avec le recul que tu as? Parce que t'as quand même 18 ans de recul, c'est pas mal. Hein.
Ouais, ça fait pas mal.
Comment tu vois ça?
Bah, pour les selles, moi je pense qu'il n'y a pas de problème, ils sont bien implantés, donc on en est à connus, on en est à 450 qui sont connus, et puis on
en parles en France ou tu...
En France, oui. Et il y en a une centaine qui sont toujours naissants, qui sont des petits groupes, mais qui ne sont pas forcément déclarés, hein, parce qu'on peut faire une selle de fête, là, à 10 souvent, on fait un petit
Et tu penses qu'il faudrait passer à vitesse supérieure et de trouver d'autres designs de la monnaie, de la créer autrement, hein?
Oui, moi je pense que ça serait bien d'associer... ce qu'on a un peu discuté aujourd'hui, associer les selles aux monnaies complémentaires et qu'on puisse avoir une parité avec le jeu, puisque le jeu c'est aussi important. Peut-être justement le jeu peut servir de... C'est pour ça que je suis venu, parce que je pense que le jeu et les partenaires du jeu qui sont partout un peu indépendants peuvent participer à l'élaboration des monnaies locales.
Oui.
Et ça, c'est important parce que c'est une réserve de gens qui sont dans l'ensemble assez autonomes.
Ouais.
Là, j'en ai rencontré quelques-unes et quelques-uns qui sont là. Et ça, c'est assez bien de voir qu'il y a des gens qui impriment leur carnet du jeu, qui commencent à faire des échanges. J'ai vu par exemple sur un carnet là, des échanges de de prêts de voitures qui se font en jeu.
Ouais.
C'est assez extraordinaire, j'avais jamais vu.
Ouais, c'est vrai.
Des gens qui ont acheté une voiture à plusieurs.
Ça devient conséquent, prêt de voiture, c'est pareil.
Prêt de voiture, c'est sympa.
Ouais.
Après, c'est pareil, comment ça se passe tout est possible. C'est-à-dire, on peut envisager un monde prêt de voiture. Bon, ça, c'est après avec les communes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un gros travail à faire avec les élus locaux. Quand on parle tout à l'heure, il y avait Dominique Voynet qui était là, c'est vrai, les élus locaux ont une charge très très lourde au niveau social.
Ouais, ouais.
Au niveau social, que ce soit sur le logement, ça soit. Et puis, c'est-à-dire pour le citoyen, lui, il voit l'élu, s'il n'a pas ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est de la faute de l'élu. Mais l'élu, il est encadré, il est pris dans
l'étau.
C'est un étau, ouais. Et l'étau, qui c'est qui fait l'étau? C'est
la finance aussi.
L'étau, la finance et l'État.
Et puis un peu les électeurs aussi quand même. Hein.
Et les électeurs, oui, parce que les électeurs, c'est vrai qu'ils sont un petit peu en bout de chaîne, ils sont un peu paumés, hein, les électeurs, quand on voit les dernières élections, alors on entend tout le pire, le meilleur, tout le monde, c'est tous pareil, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on ne change pas une société, même en une vingtaine d'années, moi ça fait 20 ans que je suis dans les alternatives, parce qu'avant, j'avais une vie totalement réglée, j'étais chef d'entreprise et tout ça, et à un moment, il y a eu une rupture, et la rupture, c'est quand on prend conscience. Quand on prend conscience, qu'on se fait entourlouper partout, par des choses, ça soit tout ce qui actuellement, les gens deviennent. Ils commencent à devenir tous procéduriers.
Oui.
Parce qu'ils ont vu qu'aux États-Unis, aux États-Unis, on prend l'exemple 10 ans après, toujours. Ouais. Aux États-Unis.
Tout passe par le tribunal.
Tout passe par le tribunal. Mmh. Tu vas acheter ton toubib, le toubib, il te dit.
Tu embrasses une fille, au tribunal.
Oui, ça déjà c'est une chose, mais quand tu vas acheter ton toubib, il dit que tu as un rhume, et puis que tu n'as pas un rhume, tu vas au tribunal. Tu dis, merde. J'ai donné 20 euros au toubib, mais il n'est pas capable. Tu vois. Et tout comme ça. Et aux États-Unis, on est procédurier. Et en France, ça commence. Moi, j'ai plein d'amis qui sont dans des procès. Tu es en procès avec ton propriétaire, tu es avec ton procès avec ton docteur, tu es en procès avec ton chirurgien.
Tu sens que ça se tend un peu, quoi.
Et ça se tend. Ouais. Et j'espère qu'au niveau lien social, les monnaies complémentaires, les selles, le jeu et tout ça, dans un proche avenir, ça pourra recréer, parce qu'on attend, c'est une vie meilleure et plus de liens sociaux.
D'accord.
Voilà.
Super. Merci beaucoup, Daniel,
pour
cet échange superbe sur ton
parcours.
C'est
ce qui sort des tripes.
Je suis très content. Un très beau moment avec toi. J'espère qu'on pourra se revoir une prochaine fois.
Pas de problème.
Je me sens un peu lié à toi, puisque je suis aussi originaire de Bordeaux, comme tu as pu le noter. J'ai un petit accent.
Bordelais,
Un petit accent mélangé.
Je vis là-bas parce que c'est bien. Je vais à Bordeaux assez régulièrement. Bon, dans le Périgord, c'est un peu en recul à l'intérieur, mais c'est une bonne région.
C'est un bel endroit.
Et puis, c'est aussi une région qui est quand même. Très social. Il y a quand même beaucoup de choses sociales qui se font grâce aux conseils régionaux, grâce aux conseils, le conseil général, les conseils généraux sont aussi. Ils ont beaucoup de travail à faire parce que on est aussi tout 10-15% de chômage dans toutes les régions
Du
sud-ouest, 20%
plus,
aussi.
C'est plus.
Donc il y a du boulot.
Mais merci beaucoup, Daniel. Moi, je vous laisse maintenant sur cette fin dans Monnaie Libre. À une prochaine fois. Puis je vous laisse à ton générique fétiche, No More Dreams de Nighter. Au revoir.